Un coup de marteau retentit à la porte de la maison et fit un si grand tapage que les femmes sautèrent sur leurs chaises. « Ce n'est pas un homme de Saumur qui frappe ainsi, » dit le notaire. « Peut-on cogner comme ça, » dit Nanon. « Veulent-ils casser notre porte ?»« Quelle diablesse !» s'écria Grandet. Nanon prit une des deux chandelles et alla ouvrir accompagnée de Grandet. « Grandet, Grandet !» s'écria sa femme qui, poussée par un vague sentiment de peur, s'élança vers la porte de la salle. Tous les joueurs se regardèrent. « Si nous y allions, » dit Monsieur des Grassins, « ce coup de marteau me paraît malveillant. » À peine fut-il permis à Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme, accompagné du facteur des messageries, qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre loto, laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis, il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des Grassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. »« Et ce monsieur est-il jeune ?» demanda l'abbé Cruchot. « Oui, » répondit monsieur des Grassins. « Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. » « Nanon ne revient pas, » dit Eugénie. « Ce ne peut être qu'un de vos parents, » dit le président. « Mademoiselle, » dit Adolphe à sa voisine, « ce sera sans doute votre cousin Grandet, un bien joli jeune homme que j'ai vu au bal de Monsieur Nissingen. » Adolphe ne continua pas. Sa mère lui marcha sur le pied, puis en lui demandant à voix haute 2 sous pour sa mise, « Veux-tu te taire, Grandigot ?» lui dit-elle à l'oreille. En ce moment, Grandet rentra sans la grande Nanon, dont le pas et celui du facteur retentirent dans les escaliers. Il était suivi du voyageur qui, depuis quelques instants, excitait tant de curiosité et préoccupait si vivement les imaginations que son arrivée en ce logis et sa chute au milieu de ce monde peut être comparée à celle d'un colimaçon dans une ruche ou à l'introduction d'un paon dans quelque obscure basse-cour de village. « Asseyez-vous auprès du feu, » lui dit Grandet. Avant de s'asseoir, le jeune homme étranger salua très gracieusement l'assemblée. Les hommes se levèrent pour répondre par une inclination polie et les femmes firent une révérence cérémonieuse. « Vous avez sans doute froid, monsieur, » dit madame Grandet. « Vous arrivez peut-être de... »« Voilà bien les femmes, » dit le vieux vigneron en quittant la lecture d'une lettre qu'il tenait à la main. « Laissez donc monsieur se reposer. »« Mais mon père, monsieur, a peut-être besoin de quelque chose, » dit Eugénie. « Il a une langue, » répondit sévèrement le vigneron. L'inconnu fut seul surpris de cette scène. Les autres personnes étaient faites aux façons despotiques du bonhomme. Néanmoins, quand ces deux demandes et ces deux réponses furent échangées, l'inconnu se leva, présenta le dos au feu, leva l'un de ses pieds pour chauffer la semelle de ses bottes et dit à Eugénie « Ma cousine, je vous remercie, j'ai dîné à Tours. » Et ajouta-t-il en regardant Grandet « Je n'ai besoin de rien, je ne suis même point fatiguée. » « Monsieur vient de la capitale ?» demanda madame des Grassins. Monsieur Charles, ainsi se nommait le fils de monsieur Grandet de Paris, en s'entendant interpeller, prit un petit lorgnon, suspendu par une chaîne à son col, l'appliqua sur son œil droit pour examiner ce qu'il y avait sur la table et les personnes qui étaient assises. Lorgna fort impertinemment madame des Grassins et lui dit après avoir tout vu « Oui, madame, vous jouez au loto, ma tante » ajouta-t-il. « Je vous en prie, continuez votre jeu, il est trop amusant pour le quitter. » Monsieur des Grassins mit un jeton sur le carton de sa femme, qui, saisie par de tristes pressentiments, observa tour à tour le cousin de Paris et Eugénie sans songer au loto. De temps en temps, la jeune héritière lança de furtifs regards à son cousin, et la femme du banquier put facilement y découvrir un crescendo d'étonnement ou de curiosité. Monsieur Charles Grandet, beau jeune homme de 22 ans, produisait en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Quelques jours avant cette soirée, son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de Saumur. Peut-être monsieur Grandet de Paris pensait-il à Eugénie ? Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe, d'y faire époque, et d'y apporter les inventions de la vie parisienne. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il emporta toutes les variétés de cols et de cravates en faveur à cette époque. Il emporta deux habits de buisson et son linge le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère. Il emporta ses colifichets de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des femmes, pour lui du moins, par une grande dame qu'il nommait Annette et qui voyageait maritalement, ennuyeusement en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur, puis force, joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine. Ce fut enfin une cargaison de futilités parisiennes, aussi complète qu'il était possible de le faire, et où, depuis la cravache qui sert à commencer un duel jusqu'au beau pistolet ciselé qui le termine, se trouvaient tous les instruments aratoires dont se sert un jeune homme oisif pour labourer la vie. Son père lui ayant dit de voyager seul et modestement, il était venu dans le coupé de la diligence retenue pour lui seul, assez content de ne pas gâter une délicieuse voiture de voyage commandée pour aller au-devant de son Annette, la grande dame que... etc. et qu'il devait rejoindre en juin prochain aux eaux de Baden. Charles comptait rencontrer 100 personnes chez son oncle. Chassé à court dans les forêts de son oncle, y vivre enfin de la vie de château. Il ne savait pas le trouver à Saumur, où il ne s'était informé de lui que pour demander le chemin de Froidfond. Mais en le sachant en ville, il crut l'y voir dans un grand hôtel. Afin de débuter convenablement chez son oncle, soit à Saumur, soit à Froidfond, il avait fait la toilette de voyage la plus coquette, la plus simplement recherchée, la plus adorable pour employer le mot qui, dans ce temps, résumait les perfections spéciales d'une chose ou d'un homme. À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains. Il y avait changé de linge et mis une cravate de satin noir combinée avec un col rond, de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de voyage à demi boutonnée lui pinçait la taille et laissait voir un gilet de cachemire à châle sous lequel était un second gilet blanc. Sa montre, négligemment abandonnée au hasard dans une poche, se rattachait par une courte chaîne d'or à l'une des boutonnières. Son pantalon gris se boutonnait sur les côtés où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures. Il maniait agréablement une canne dont la pomme d'or sculptée n'altérait point la fraîcheur de ses gants gris. Enfin, sa casquette était d'un goût excellent. Un Parisien de la sphère la plus élevée, pouvait seul et s'agencer ainsi sans paraître ridicule, et donner une harmonie de fatuité à toutes ces niaiseries que soutenait d'ailleurs un air brave, l'air d'un jeune homme qui a de beaux pistolets, le coup sûr et Annette. Maintenant, si vous voulez bien comprendre la surprise respective des Saumurois et du jeune Parisien, voir parfaitement le vif éclat que l'élégance du voyageur jetait au milieu des ombres grises, de la salle et des figures qui composaient le tableau de famille, essayez de vous représenter les Cruchot. Monsieur des Grassins et son fils, auquel la figure d'un homme à la mode n'était pas inconnue, s'associèrent néanmoins à l'étonnement de leurs voisins. Soit qu'ils éprouvassent l'indéfinissable influence d'un sentiment général, soit qu'ils l'approuvassent en disant à leurs compatriotes par des œillades pleines d'ironie « Voilà comment ils sont à Paris ». Tous pouvaient d'ailleurs observer Charles à loisir, sans craindre de déplaire au maître du logis. Grandet était absorbé dans la longue lettre qu'il tenait, et l'avait pris pour la lire l'unique flambeau de la table sans se soucier de ses hôtes ni de leur plaisir. Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnu, crut voir en son cousin une créature descendue de quelque région séraphique. Elle respirait avec délice les parfums exhalés par cette chevelure si brillante, si gracieusement bouclée. Elle enviait les petites mains de Charles, son teint, la fraîcheur et la délicatesse de ses traits. Enfin, si toutefois cette image peut résumer les impressions que le jeune homme élégant produisit sur une ignorante fille sans cesse occupée à rapetasser des bas, à ravauder la garde-robe de son père et dont la vie s'était écoulée sous ses crasseux lambris, sans voir dans cette rue silencieuse plus d'un passant par heure. La vue de son cousin fit sourdre en son cœur les émotions de fine volupté que causent à un jeune homme les fantastiques figures de femmes dessinées par Westall, dont les kipsacs anglais est gravé par les fines daines d'un burin si habile qu'on a peur en soufflant sur le vélin de faire envoler ses apparitions célestes. Charles tira de sa poche un mouchoir brodé par la grande dame qui voyageait en Écosse. En voyant ce joli ouvrage fait avec amour pendant les heures perdues pour l'amour, Eugénie regarda son cousin pour savoir s'il allait bien réellement s'en servir. Les manières de Charles, ses gestes, la façon dont il prenait son lorgnon, son impertinence affectée, son mépris pour le coffret qui venait de faire tant de plaisir à la riche héritière et qu'il trouvait évidemment ou sans valeur ou ridicule, enfin, tout ce qui choquait les Cruchot et les Desgrassins lui plaisait si fort qu'avant de s'endormir, elle dut rêver longtemps à ce phénix des cousins. Les numéros se tiraient fort lentement, mais bientôt le loto fut arrêté. La grande Nanon entra et dit tout haut « Madame, va falloir me donner des draps pour faire le lit à ce monsieur. » Eugénie, mue par une de ces pensées qui naissent au cœur des jeunes filles quand un sentiment s'y loge pour la première fois, quitta la salle pour aller aider sa mère et Nanon. Si elle avait été questionnée par un confesseur habile, elle lui eût sans doute avoué qu'elle ne songeait ni à sa mère, ni à Nanon, mais qu'elle était travaillée par un poignant désir d'inspecter la chambre de son cousin pour s'y occuper de son cousin, pour y placer quoi que ce fût, pour obvier à un oubli, pour y tout prévoir afin de la rendre autant que possible élégante et propre. Eugénie se croyait déjà seule capable de comprendre les goûts et les idées de son cousin. En effet, elle arriva fort heureusement pour prouver à sa mère et à Nanon, qui revenaient pensant avoir tout fait, que tout était à faire. Elle donna l'idée à la grande Nanon de bassiner les draps avec la braise du feu. Elle couvrit elle-même la vieille table d'un napperon et recommanda bien à Nanon de changer le napperon tous les matins. Elle convainquit sa mère de la nécessité d'allumer un bon feu dans la cheminée et détermina Nanon à monter, sans en rien dire à son père, un gros tas de bois dans le corridor. Elle courut chercher, dans une de ses encoignures de la salle, un plateau de vieux lacs qui venait de la succession de feu le vieux monsieur de la Bartelière. Il prit également un verre de cristal à 6 pans, une petite cuillère dédorée, un flacon antique où étaient gravés des amours, et mit triomphalement le tout sur un coin de la cheminée. Il lui avait plus surgi d'idées en un quart d'heure qu'elle n'en avait eu depuis qu'elle était au monde. « Maman, dit-elle, jamais mon cousin ne supportera l'odeur d'une chandelle. Si nous achetions de la bougie ?» Elle alla, légère comme un oiseau, tirer de sa bourse l'écu de 100 sous qu'elle avait reçu pour ses dépenses du mois. « Tiens, Nanon, dit-elle, va vite !»« Mais que dira ton père ?» Cette objection terrible fut proposée par Madame Grandet en voyant sa fille armée d'un sucrier de vieux Sèvres rapporté du château de Froidfond par Grandet. Et où prendras-tu donc du sucre? Tu es folle? Maman, Nanon achètera aussi bien du sucre que de la bougie. Mais ton père, serait-il convenable que son neveu ne pût boire un verre d'eau sucrée? D'ailleurs, il n'y fera pas attention. Ton père voit tout, dit Madame Grandet en hochant la tête. Nanon hésitait. Elle connaissait son maître. Mais va donc, Nanon, puisque c'est ma fête. Nanon laissa échapper un gros rire en entendant la première plaisanterie que sa jeune maîtresse eût jamais faite et lui obéit. Pendant que Eugénie et sa mère s'efforçaient d'embellir la chambre destinée par M. Grandet à son neveu, Charles se trouvait l'objet des attentions de Mme Desgrassins qui lui faisait des agaceries. « Vous êtes bien courageux, monsieur, lui dit-elle, de quitter les plaisirs de la capitale pendant l'hiver pour venir habiter Saumur. » « Mais si nous ne vous faisons pas trop peur, vous verrez que l'on peut encore s'y amuser. » Elle lui lança une véritable œillade de province où par habitude les femmes mettent tant de réserve et de prudence dans leurs yeux qu'elles leur communiquent la friande concupiscence particulière à ceux des ecclésiastiques pour qui tout plaisir semble ou un vol ou une faute.